retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Je sais pas si je me considère addict, mais je pars du principe qu'il faut s'amuser globalement dans la vie. Et en fait, pour s'amuser, il faut être bon. Et pour être bon, il faut en faire. Et du coup, tout devient vachement plus amusant quand on est bon dans la chose, sur tous les sujets. Et du coup, le parachute est venu comme ça. Maintenant, je pilote. Ça, c'est un rêve d'enfance.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il y a ceux qui sautent dans le vide pour fuir et ceux qui sautent pour s'ancrer, pour rester au monde. Ceux qui boivent pour oublier et ceux qui y renoncent pour ne rien manquer. Et puis ceux plus rares qui transforment l'adrénaline en discipline, ceux qui, à force de tomber, ont appris à tenir debout. Notre invité, lui, a testé les deux. Les nuits trop longues, les réveils flingués, l'alcool jusqu'à 5 heures du mat avant de bosser à 7. Un ancien naufragé des nuits blanches. Aujourd'hui, il est plutôt de ceux qui sifflent un Perrier au milieu des pintes. Mais aussi celui qui fait le tour du périph' en moto pour dormir. Il a choisi de faire de ses excès un moteur, de son désir de plus une discipline, de son vide intérieur un point de départ, et il n'a pas cherché à calmer la pulsion mais à l'encadrer, à la respecter. Il aurait pu devenir accro à 1000 substances, il a préféré le sport. Parce que dans le saut, dans la boxe, dans le cardio, il y a l'oubli, mais la lucidité en prime. Parce qu'il fallait que ça tape fort pour que ça apaise. Adrien est photographe de luxe la semaine et cascadeur de l'extrême les week-ends. Il photographie des corps figés et saute pour sentir le sien vivant. Il passe sa licence de pilote, il monte sa boîte de photographie. Il dit de lui qu'il est forcément addict à l'adrénaline. Mais ici, il s'agit d'une autre addiction, celle à la justesse du geste, à l'instant parfait, à la ligne fine entre la vie et la chute, le flow. Comme les yogis, les méditants, les sportifs de haut niveau et tous ceux qui ont la chance de le toucher le nomment. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Adrien Devillette, 34 ans, champion de France en wingsuit performance. Il incarne une génération qui cherche à canaliser ses excès non pas dans la fuite mais dans la maîtrise. Et on va parler de saut, de flow, de contrôle, d'accident, de fait oublié, de discipline de métal et de comment remplacer une redescente par une bonne grosse chute libre. Bonjour Adrien.
Bonjour Kay.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Est-ce que ça allait un peu l'introduction ? Ça manque évidemment de tout ce que tu fais parce que tu fais beaucoup.
Je fais pas mal. Non, c'est globalement bien. Merci pour ces jolis mots.
Comme je l'ai dit dans l'introduction, je veux dire, si tu n'avais pas trouvé tout ça ou si tu étais dans l'incapacité de le faire, si tu n'avais pas été bon à ça, peut-être, on ne sait pas, avec des si, ça aurait peut-être mal tourné.
Après, j'ai commencé les sports pour d'autres raisons que changer de vie. J'ai commencé les sports extrêmes en 2018, après une grosse séparation.
C'est pas si longtemps, non, c'est ça qui est fou.
Pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai pas cherché quelque chose pour m'échapper, mais c'est le fait de commencer qui a fait que je me suis échappé, que j'ai vraiment changé de mindset sur plein de choses. Et quand on commence un sport comme ça, après j'ai fait beaucoup de sports un peu intenses, je suis motard, je fais du surf beaucoup. Avant, je faisais énormément de surf. Plus jeune, parce que j'ai de la chance d'avoir mon père qui a une maison au Pays Basque. Mmh. Et du coup, j'ai toujours été dans les sports, le foot et le tennis. Ça m'amuse une fois de temps en temps, mais c'est pas
mon truc,
quoi. Ça soit un peu plus fort. Et le parachute est arrivé vraiment comme une goutte, comme ça. Pas d'anticipation. C'est arrivé. J'avais envie d'essayer quelque chose. J'avais besoin de quelque chose pour me sortir de Paris, un peu de mon quotidien de l'époque. Et j'ai commencé ça à la base en me disant, je vais en faire 3-4 par-ci, par-là. Une fois de temps en temps, je vais y aller. Et en fait, l'addiction est venue comme n'importe quelle addiction, en fait, en faisant et en ayant ce besoin de recharge de ce que ça, du plaisir que ça procure et de toutes les sensations extraordinaires que ça procure.
Ouais, tu dis qu'en fait, t'as pas été chercher ce truc-là sciemment, mais en même temps, il y avait quand même un désir de sortir, comme tu dis, de ce quotidien ou de ce mal-être, de peut-être de la rupture et de changer de mindset, d'essayer quelque chose qui pourrait, en tout cas, te procurer des sensations que tu ne connaissais pas encore.
Bah, quelque chose qui t'amène quelque chose de nouveau. En fait, c'est ça. J'aime bien avoir des nouvelles choses et ajouter des choses à la vie. Je pense que c'est important. Et donc, que ce soit plein de façons différentes et sur plein de sujets, sur du sport, sur des nouveaux projets pour le taf, des nouvelles rencontres en tant que personne. Et tout ça devient, et tout ça construit en fait quelque chose qui est assez intéressant. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais rajouter ce nouveau sport à la corde. Mais à la base, je pensais pas du tout de l'emmener là où je l'ai emmené. Et en tout cas, même que ça m'emmène moi là où ça m'a emmené aujourd'hui, en fait.
C'est sûrement que, justement, il y a un vrai tempérament d'addict quand même qu'on ressent très fort. Et de toute façon, quand un addict essaye un truc sensationnel, il y reste, hein. D'ailleurs, j'aimerais connaître ta définition, ou en tout cas ta vision de l'addiction.
Alors, ma vision de l'addiction, je sais pas si je me considère addict, mais je pars du principe qu'il faut s'amuser globalement dans la vie. Et en fait, pour s'amuser, faut être bon. Et pour être bon, faut en faire. Et du coup, tout devient vachement plus amusant quand on est bon dans la chose, sur tous les sujets. Et du coup, le parachute est venu comme ça. Maintenant, je pilote. Comme tu as dit en entrée, je pilote. Ça, c'est un rêve d'enfant, ça. De piloter, j'ai toujours voulu voler, c'est un rêve de gosse.
Tu voles en fait avec ton...
Je vole avec ma combinaison, bah ouais. Et maintenant je vole avec un avion.
Il faut voir les vidéos de cette discipline là, wingsuit là, ouais. C'est comme des chauves-souris. Hein.
Et un peu, c'est les écureuils volants.
Écureuils volants, voilà, pardon. J'ai dit n'importe quoi, c'est exactement ça, écureuils volants. Ouais. Non mais c'est intéressant parce que c'est ta définition de l'addiction, elle part du principe de s'amuser et donc il faut être bon, ouais. Et donc pour être bon il faut en faire, beaucoup. Et donc ça, c'est un cercle vertueux un petit peu, ta définition de l'addiction est très positive.
Bah, je pense que je sais pas si je définis ça comme de l'addiction, si. Enfin, moi je suis clairement addict, je sais que je suis pas bien quand je saute pas, on break pas mal l'hiver, cet hiver j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai pas pu trop partir à l'étranger comme je fais normalement pour aller sauter, et c'est vrai que ça manque quoi, quand t'as pas ce rush le rush du moment en fait, qu'on a, et qui est vraiment je pense très comparable à un rush de des addictions un peu moins saines potentiellement,
ouais,
que
le
les gens
flash,
peuvent avoir.
Comme on dit.
Voilà, et moi ce flash là, mais que j'ai, voilà, c'est des trucs qu'on va faire 10 sauts par jour, et 10 fois tu te prends ce truc là, et qui en plus a la chance d'être positif. Moi j'ai la chance d'avoir trouvé un truc qui a ce flash là, mais qui est assez positif.
Mais c'est dangereux quand même.
Alors je vais pas dire non parce que ça l'est forcément, d'un avion c'est pas naturel, mais c'est plus impressionnant que dangereux. Je pense que c'est plus dangereux de faire de la moto pour venir au studio aujourd'hui que de sauter des avions. Parce que t'as pas le facteur autre. J'ai eu un accident, forcément, sinon c'est pas drôle.
On va en parler en 2021.
Ouais, j'ai eu un accident, mais sinon ça arrive pas trop, en fait. Quand on saute des montagnes, ce que potentiellement je vais faire après, là il y a aucun doute que c'est le sport le plus dangereux au monde.
Il paraît, oui.
Mais par contre, pour l'instant, sauter des avions, en vrai...
C'est-à-dire quand il n'y a pas d'obstacle à l'horizon, on va dire, voilà. L'accident que tu as eu, c'est ta combi qui ne se met pas...
Non, j'ai raté mon atterrissage. J'étais au moment où on a 500, où j'avais 500 sauts à peu près. Et c'est le moment, comme dans n'importe quelle activité, où tant qu'il t'est rien arrivé, tu es là, ok, en fait, c'est un sport tranquille. C'est pas besoin de faire attention, c'est normal, on sait faire, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Et bah, la vie vous le rappelle un peu, enfin, en tout cas, moi, me l'a rappelé un peu fort. Donc depuis, c'est posé tranquille et on fait les choses bien. Non, j'ai raté un atterrissage, je me suis éclaté dans le sol.
80 km/h quand même.
Ouais, à plat ventre.
Mais on va en parler après parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi à partir du moment où tu étais en rétablissement de cette chute, de cet atterrissage raté, que tu n'as pas pu, en tout cas, faire de sport, sauter, en tout cas, que tu devais être immobilisé, j'imagine, à quelque temps. Comment ça s'est passé? Mais on n'y est pas. Moi, j'aimerais savoir un petit peu si tu te souviens, enfant, des signes précurseurs de choses, en tout cas, où tu t'es dit, il me faut des choses à sensation. Est-ce que tu étais plutôt casse-cou ou plutôt discret? Est-ce que tu te rappelles d'une enfance plutôt difficile et te manquait quelque chose? C'était quoi, enfant, Adrien?
Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille plutôt aimante, enfin, très aimante, parents divorcés. Plutôt casse-cou. Créatif, très créatif.
Ouais.
Toujours les idées pour faire des bêtises. Souvent.
Ouais, c'est ça. Tu savais où monter pour pouvoir sauter.
Voilà.
Quoi.
Donc ça, non, je pense que ce qui m'a fait avoir besoin d'extraordinaire, c'est justement, moi, j'ai grandi à Paris, vie très normale, et trop normale, en fait. Et du coup, j'ai dit, je veux autre chose, parce que, ok, c'est bien, l'école, le machin, les copains, tout ça, c'est cool, mais j'ai besoin de plus, en fait.
Et avant de sauter, donc, tu as trouvé ce plus quand même avec l'amitié, la fête, l'alcool, ouais, les soirées.
Beaucoup la fête, pas mal l'alcool, mais jamais à outrance, à part hein, forcément une fois de temps en temps, ça dérape. Mmh. Mais non, beaucoup la fête.
Et quand tu dis la fête, c'est quoi?
Ah bah la fête, c'est les boîtes de nuit, c'est les réveils un peu difficiles, c'est les soirées qui finissent à 10h du mat, sur une péniche à faire coucou aux touristes qui passent.
Et sans substance, t'es arrivé?
Un petit peu, j'en ai pris un petit peu, mais...
T'es comme Obélix, quoi, t'as le truc déjà là, quoi.
J'ai pas besoin de... Mais moi, j'ai passé des soirées très marrantes avec un peu d'alcool et autres, mais j'ai passé aussi des super soirées complètement sobres, à regarder les gens, en fait. J'aime bien la soirée prend une autre dimension de espèce de comédia dell'arte. Et du coup, tu comprends un peu les dynamiques et tu regardes un peu comment les gens interagissent. J'aime bien l'humain. Et du coup, ça peut m'amuser parfois de vraiment regarder les gens et comment ça interagit et comment les gens vont évoluer au fur et à mesure de la soirée. Et du coup, c'est un théâtre.
Mais c'est incroyable d'avoir déjà cette faculté-là de pas participer de façon active à la consommation des gens. Les addicts, j'en sais quelque chose, c'était hors de question que moi je sois de celles qui regardent.
Ouais, mais je reste dedans, j'ai des jolis groupes de soirées, j'avais plein de potes à l'époque, où ça sortait beaucoup, et je me sentais pas exclu de pas être, d'être sobre en fait. C'était pas un game changer. Et déjà à l'époque, moi j'avais déjà pas mal d'activités à côté. Et du coup, moi, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ok, c'est cool une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps, et comme ça, le lendemain, le dimanche, il se passe des choses et on a une journée un peu constructive. Et du coup, ouais, non, je l'ai fait beaucoup. Ma mère pourra le témoigner. Ouais, pauvre. Mais donc non, je l'ai beaucoup fait plus jeune. Mais comme j'ai commencé à sortir très très jeune, trop jeune d'ailleurs, sûrement. Du coup, j'ai arrêté aussi. Enfin, j'ai calmé le jeu et compris les choses un peu plus jeune aussi.
Non, mais t'as cette chance-là d'avoir grandi. Il y en a qui n'arrivent, même quand ils commencent jeunes, ils n'arrêtent pas. Hein. Mais je pense que c'est exactement lié à ce que je disais dans mon introduction. Il y a ceux qui font la fête pour oublier un peu les soucis, les choses et tout. Et puis, il y a ceux qui renoncent pour ne rien manquer. Ça veut dire qu'en fait, on sent que toi, t'es un peu un addict à la vie, quoi. Quand tu dis tout à l'heure, je veux rajouter des choses à ma vie, c'est plus la phrase de je sais plus qui dit je rajoute de la vie au jour plutôt que des jours à la vie. Toi, tu veux mettre de la vie dans la vie.
Je pense qu'il y a plein de choses à vivre. Et de toute façon, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on veut.
Ça vient de la peur de la mort, tout ça, quand même.
Ça arrivera un moment.
Après, mais tu veux avoir tout fait.
Moi, ça peut arriver plus tôt que d'autres, mais...
Ne dis pas ça, je veux pas que ta mère écoute cet épisode. Comment ils vivent ça, eux?
Écoute, ils vivent ça bien. C'est assez marrant, ce genre de sport qui vont dire « Ah, mais mon fils, il est complètement fou, il fait ça. » Mais quand t'es en vacances et que tu rentres du parachute et elle regarde la vidéo, elle est avec ses amis à la maison et elle dit « Ah, regarde ce qu'il a fait, mon fils,
elle
aujourd'hui. »
Elle est trop fière.
C'est leur... Après, ils sont jamais venus me voir. Ça, j'ai pas...
Ah bon?
Jamais.
Et combien de sauts t'as fait pour l'instant dans ta vie?
Oula, moi, j'en ai 1580 et quelques. Je crois, ouais, je me suis noté mon 1580e ce week-end.
Bah, tu vois, moi, j'ai sauté en parachute. J'ai sauté, c'est pas en parachute, je sais pas comment on appelle ça, d'un avion, là, le chute libre, là. Ouais. Pour mes 40 ans, j'avais demandé ça. Ouais. Et je peux te dire, je suis pas du tout tombée accro.
T'as pas aimé?
J'ai adoré, mais j'aurais trop peur de le refaire. Enfin, je me rappelle de la peur que j'ai eue au moment où on m'a poussé de l'avion, et j'ai pas très envie de revivre ça.
Ouais, mais moi, j'aurais très peur de quelqu'un qui a pas peur au début. La personne qui, la première fois de sa vie, dans un avion, à genre 4000 mètres, à une porte qui s'ouvre, et on dit, tu vas sauter, et n'a pas une once de peur, moi, j'ai très peur de cette personne.
Je pense que peut-être, avec toi, je le ferais. Je le referai.
On le refait
avec, ouais, avec grand plaisir. Bah, allez, on lance le défi pour mes 47 ans, hein, la pauvre. Elle a 47 ans, elle met ses lunettes. C'est quoi ta première montée d'adrénaline? Avec cette discipline ou avant? Est-ce que tu te rappelles de ce moment? Ah, c'est le premier saut.
Ah, le premier saut, j'ai rien compris. Moi, j'avais jamais fait de tandem, donc moi, j'ai sauté directement tout seul en formation.
Ah bon?
J'ai jamais été accroché à quelqu'un.
Wow. C'est très bien cette phrase déjà.
Si j'ai été accroché à trop de gens d'ailleurs.
C'est ça, non mais c'est ça qui est fou.
Peut-être. Et donc non, le premier saut, j'ai rien compris. Rien. Je regarde la vidéo de temps en temps de mon premier saut, j'ai les yeux ouverts mais tu sens que derrière le cerveau il est complètement débranché et là genre t'as voulu faire des conneries, démarre-toi maintenant. Et ça, donc non, le premier rush, bah forcément les premiers sauts. Le premier saut tout seul, il est terrifiant. Parce que tu fais la formation, t'as des gens avec toi pendant la chute libre à côté de toi. Sous ton parachute tout seul, mais t'as un Tokiwoki, t'as un très très gros parachute. Donc en vrai, il peut pas t'arriver grand chose. Mais par contre, le premier saut après la formation, ils disent bon bah c'est bon, tu peux aller, vas-y tout seul. T'es à la porte de l'avion, t'es là bon. Ils ont dit que je pouvais, donc ça va, mais quand même, on sait jamais.
Parce que tu l'as fait suite à une formation, parce en fait, que bah, moi je l'ai fait comme ça une
ouais,
fois.
Toi t'as fait le tandem
accroché.
Toi
t'as d'abord commencé.
Moi j'ai jamais été accroché à quelqu'un.
Par une formation.
J'ai fait la formation, on a une journée de théorique où ils nous expliquent un peu comment ça marche. Après t'as un premier saut où t'as deux instructeurs avec toi pendant la chute libre, mais t'as ton parachute. C'est-à-dire qu'une fois que t'as ton parachute tout seul. Et après t'as cinq sauts où t'es avec une personne.
Okay.
Qui te guide, qui t'explique les choses, qui essaie de te faire en sorte que ça se passe bien et tout. Et normalement, si tout se passe bien et que ta formation a été bonne, au septième saut, t'es tout seul.
D'accord.
De A à Z.
Ok.
Et alors, ce premier saut tout seul, quand t'as la porte d'avion, t'as dit, bon, ils ont dit que je savais faire, donc on va y aller, mais bon, c'est...
Quand on a discuté, tu m'as vraiment expliqué ce que tu ressentais pendant le saut et ce que j'ai dit en introduction aussi, ça, c'est le flow, le fameux.
Ouais.
C'est ce que tout être humain recherche, mais vraiment, et le flow, je pense que c'est une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Hein. C'est très proche de la foi. Et donc, c'est ce que les addicts recherchent avec le produit, c'est ce qu'on recherche même en devenant parents. On va toujours chercher des choses qui vont nous faire sentir connectés tellement vivant que finalement divin un petit peu quelque part. Moi j'ai trouvé, c'était complètement fou, en faisant cet épisode je me suis paumée complètement dans Wikipédia, dans des trucs avec le flow, ça m'a amenée dans des zones incroyables parce que j'avais pas compris à quel point c'était le maître mot de l'univers.
Bah si, je pense qu'on a tous, la recherche de ce qui va, de l'exaltation quelque part, de cette chose qui va te sortir un peu de toi, qui du coup te transcende quasiment.
C'est ultra philosophique.
Quand tu voles là-haut, il peut se passer n'importe quoi. J'ai eu des moments de galère comme n'importe quelle personne. Et tu vas sauter. Alors là, tu t'en fous en fait. Il n'y a plus rien qui a d'importance.
C'est tellement proche de la drogue.
Pendant ces 5 minutes-là,
on va chercher.
T'es là, on s'en fout en fait. C'est vraiment rien n'est important. À part le moment, mais après, c'est parce que ça va très vite, c'est très fort. C'est dangereux un peu quand même. Et du coup, t'as besoin d'être concentré. Et en même temps, t'es à la fois concentré sur tes mouvements, te mettre bien, faire ton ce que t'as prévu de faire bien. Et en même temps, c'est vraiment un lâcher prise total de... Après, ça, c'est quand t'arrives à un certain niveau et que du coup, tu maîtrises ton sujet suffisamment. Mais je pense que c'est la même chose pour n'importe quel sportif. Quand il se lance même pour faire un sport que moi je comprends pas, la course à pied, je suis sûr qu'il y a un état de transcendance derrière qui arrive. Et pourtant, il fait que courir sur un
exactement.
Chemin, mais qui font de l'ultra trail.
Enfin, tu ne peux pas parvenir à le faire si tu rentres pas dans une transe. De toute façon, parce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils auraient pu courir le double à la fin.
Hein. C'est ça.
Et en fait, justement, j'ai trouvé ça. C'est donc un chercheur comme Timothy Galloway et Roy Palmer qui explique que cet état où réflexes conscients et inconscients fusionnent. Donc c'est les réflexes conscients et inconscients fusionnent et ça devient une zone où le mouvement devient naturel presque sans effort. Et donc après il donne des exemples de Pelé ou de Ayrton Senna, tu vois, qui parlent tous de cette dimension parallèle. Et donc Pelé, il décrit cette expérience, alors que tu vois c'est des sports que tu comprends pas. J'ai ressenti comme un étrange calme, une sorte d'euphorie. J'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes leurs équipes, à travers tous, je pouvais presque leur passer à travers physiquement. Et après, t'as Ayrton Senna, alors là, carrément, j'étais déjà en pole position et je continuais. Tout à coup, j'avais 2 secondes d'avance sur tout le monde, même sur mon binôme qui avait la même voiture, et tout à coup, j'ai réalisé que je ne conduisais plus la voiture consciemment, je la conduisais comme instinctivement, et j'étais dans une autre dimension, comme dans un tunnel. Mais c'est complètement fou, et il va chercher comme ça, ce chercheur, tous les sportifs de haut niveau. Et donc, ça rejoint une autre partie du truc. C'est pas que l'adrénaline. C'est aussi ce moment-là où tu maîtrises.
Ouais. Bah oui, forcément, parce que Parce qu'au bout d'un moment, tu arrives dans un tel contrôle de ton outil, et j'y suis pas encore complètement. Tant que je suis pas champion du monde, je suis pas le meilleur. Donc, entre guillemets, j'ai pas fini d'aboutir ma connaissance de mon outil. Mais c'est sûr que, et c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai dit ce week-end avec un ami. On a fait un saut marrant, un peu délire, rien de compète, juste du fun. Et j'ai réussi à faire un truc dans le saut sans même y penser. Où il était un peu plus haut que moi, moi j'étais un peu en dessous, ça, et j'ai réussi, et j'étais sur le, en vol sur le dos comme les avions qui s'inversent, et j'ai réussi à remonter sur lui alors que théoriquement j'aurais pas dû pouvoir, mais j'ai réussi et j'étais là et je me suis posé, j'ai regardé le truc un soir, je fais mais comment j'ai fait ça, et j'y ai même pas pensé, j'étais un peu loin, j'ai dit ok, faut que je retourne sur lui sur le dos pour récupérer la personne qui est en dessous de lui et tout, c'est un saut un peu acrobatique et tout, et je reviens. Et j'ai regardé la vidéo, je dis, mais comment je fais ça? Parce que je l'ai fait inconsciemment, c'est-à-dire que même en pleine conscience de vouloir le faire, c'est pas sûr.
C'est-à-dire, reviens, tu remontes?
J'ai réussi à remonter, non, on peut remonter un petit peu avec suffisamment d'énergie et de, en fait, c'est, la wingsuit, c'est vraiment de la redistribution d'énergie. C'est là où tu vas mettre l'énergie potentielle disponible que t'as, accumulée en allant vite un peu vers le sol et de ça. Du coup, tu peux la redistribuer pour remonter un peu, aller plus vite devant.
Par exemple, tu penses, quelque chose, et tu arrives à le faire, en fait.
Oui, mais après, c'est ton corps qui fait que, ouais. Parce que tu lui as appris, parce que tu as répété les mouvements plein de fois, et donc, du coup, tu as appris à ton corps à faire à te dire, ça devient reptilien au bout d'un moment. Tu réfléchis même plus. Tu fais, et justement, ça rejoint ce que tu disais là. Au bout d'un moment, en fait, tu es là, bon, il faut que j'aille là-bas. Tu penses même pas au fait que c'est potentiellement compliqué d'y aller. C'est juste que tu dis, bon, faut y aller. Et tu y vas. Et en fait, et ton corps t'emmène. Et du coup, là, j'ai regardé la vidéo 15 fois. J'étais là, mais comment j'ai fait pour faire ça? Parce que c'est faisable. Je sais que c'est faisable. Après, c'est un peu compliqué. Mais là, tu l'as fait sans le moindre effort. Alors moi, je suis arrivé comme ça.
C'est pour ça que je parle de foi. Ouais. C'est même Jésus. On entend parler tout le temps. Si tu crois que tu peux marcher sur la mer, si tu crois que tu peux déplacer cette montagne, tu le feras. Ouais. Mais il faut vraiment avoir une foi. Et je pense que dans ces moments-là, en fait, tu ne penses même pas. Tu sais que c'est faisable et ton inconscient, en fait, consciemment, non. Mais ton inconscient sait que tu vas réussir à le faire.
Bah, surtout, tu sais, tu donnes un objectif à ton mouvement. Et tu l'emmènes là-haut, et t'es là, bon, ça marche.
C'est incroyable. Et ça, tu peux le faire qu'avec cette discipline-là de wingsuit. C'est-à-dire que quand est-ce que t'es passé à cette discipline-là? Parce qu'avant.
C'était l'objectif.
Ah!
J'ai commencé à sauter. Quand j'ai commencé à sauter et que j'ai vu que, de toute façon, ça allait être un gros chapitre dans ma vie, j'ai dit, bon, de toute façon, je veux faire ça.
Parce qu'en fait, tu veux contrôler aussi la descente. Parce que quand tu sautes, tu peux rien contrôler sans ce vêtement-là.
Tu contrôles moins. Surtout, c'est plus court et tu voles pas, en fait.
Ouais,
tu chutes.
Je vole vers le bas. C'est ça que j'ai pas aimé, moi. Tu vois, je me suis dit, moi, je croyais que j'allais voler. Et en fait, je me sentais chuter.
On peut faire un tandem wingsuit, si tu veux. Un mec qui le fait.
Mais je rigole pas.
Qui est un pote.
Ah, mais je rigole pas.
C'est le seul au monde à le faire. On peut.
J'ai une passion pour les écureuils. Alors imagine les écureuils volants.
Ça, on peut organiser ça.
Mais je trouve ça extrêmement passionnant parce que ça regroupe, ça vient recouper tellement de témoignages sur l'addiction et sur les produits, notamment l'héroïne. Oui. Ce moment-là où d'un coup t'es dans du coton et y a rien qui peut avoir d'importance et rien ne peut compter d'autre que ce moment-là que t'es en train de vivre.
J'avais essayé sur j'avais essayé sur les drogues genre de la MD, tout ça que j'avais pris une ou deux fois à Ibiza forcément. Et en fait c'est plus violent parce que après moi c'est des époques où j'aime pas trop perdre le contrôle, j'aime bien contrôler quand même et du coup là moi j'ai un rush que je contrôle et ça c'est fou, c'est-à-dire que je suis en full contrôle de A à Z, enfin c'est une contrôle mais tu te mets dans la situation où tu vas un peu te vider de tout ces trucs que t'aimes pas. Enfin, de tous les problèmes de la boîte, ceci, un tel est au bureau, il m'a fait chier, la vie. Et c'est un rush contrôlé, là où, moi, j'ai fait que la drogue un peu festive et tout.
MDMA, ça ouvre la conscience quand même, hein.
Par rapport à la cocaïne qui rétrécit. Ça, je l'ai pris une fois pour une espèce de pression sociale de mon ex, son frère qui était un peu un druide. Moi, ce que j'appelle les druides, ceux qui prennent...
Chaman, tout ça.
Non, mais ceux qui prennent plein de trucs tout le temps. Et je les appelle les druides. Donc je l'ai pris un peu sous pression sociale. C'est un grand mot, j'ai voulu. Mais j'ai combattu le truc. Et après, en fait, c'est parti tellement violemment d'un coup... Parce que j'en ai pris une fois, ça m'a rien fait. Je dis, tu vois, ça me fait rien, laisse tomber. Gardez votre truc, restez dans votre truc. Moi, je vais picoler tranquille et on est bien. Non, mais vas-y, reprends et tout. Non, 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 je prends. Et en fait, ça a tapé d'un coup. Tout est monté d'un coup. J'avais pris 2 doses, 3 doses. Et ça avait un goût dégueu. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un Red Bull. Connerie. J'ai pris un Red Bull pour juste me laver la bouche de goût, tu vois. Et là, forcément, t'as tout qui est parti. Et en fait, c'est monté tellement, c'était tellement violent qu'après, j'ai dit, en fait, c'est pas mon truc, quoi. C'était tellement violent de rien. J'ai eu 1h30 de blackout. J'aime pas trop la foule. Forcément, moi, je suis tranquille dans les airs.
Oui, tu m'étonnes. La foule, t'es pas emmerdé, là-bas. Voilà.
Ah non, je suis tranquille. Et la foule et tout. Et j'étais pareil, j'étais en plein milieu de plein de gens, alors que moi, être en plein milieu d'une boîte avec tout le monde qui est comme ça, j'aime pas trop.
Mais toi, t'es surtout un addict, je dis à la vie, mais à la liberté. On sent vraiment que déjà, quelqu'un qui se déplace en moto, c'est qu'il a pas envie de se faire chier avec tout le monde dans le métro, déjà.
Bah, c'est pour
parce
ça,
qu'à Paris, limite, c'est plus simple, quand même.
C'est globalement plus simple. Ouais. Bah, après, il y a un truc, c'est que je pense que la seule monnaie universelle et tout humain a la même, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Personne n'a plus, même l'homme le plus riche du monde, il n'arrive pas à gratter 1 heure dans la journée. Et du coup, tant que je peux gagner du temps,
C'est très contradictoire. Tu dis, on a tous le même temps. Et je veux gratter du temps, mais on peut pas gratter du temps.
Si, parce
en fait.
Que moi, pour me déplacer, je gagne. En fait, c'est temps gagné. Donc, en fait, je gagne du temps.
Mais on peut, moi, par exemple, les transports, j'en ai énormément parce que je suis partie habiter un peu plus loin. Et en fait, je l'optimise dans des choses dont je sens que j'ai besoin, c'est-à-dire la méditation, par exemple, ou lire. C'est important et on a moins le temps à la maison de se poser avec un livre aujourd'hui. Et je trouve que le transport, en fait, si on l'optimise, surtout d'abord, moi, mon but, c'est de pas regarder les autres personnes dans le métro parce que j'ai envie de crever. J'ai l'impression de voir un peuple de zombies. Mais vraiment, mais c'est collé. Ouais. Le nez collé, c'est surtout les jeunes qui me font vraiment de la peine. Mais du coup, au moins, je regarde pas ça et puis je l'optimise dans ce sens-là. J'ai l'impression, moi aussi, de chercher à gagner du temps.
Du temps?
Ah oui.
Ah mais enfin oui, c'est
toi t'as plus de temps pour faire des activités quoi.
Mais j'ai plus de temps pour faire des choses et là tu vois ce matin j'étais au sport très tôt, après j'avais des réunions, après je suis là à 14h.
Alors je précise qu'il est 11h, qu'en plus j'ai donné la mauvaise adresse à Adrien. Donc c'est-à-dire que avant ça mais alors tiens on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est une journée pour toi justement de 24 heures? Comment tu la découpes et surtout quelle est la discipline sportive déjà que et puis alimentaire aussi hein, peut-être.
Alors, les disciplines sportives, bah, y a forcément du sport dans la journée, quelque part, que j'ai commencé à faire à la limite de l'outrance, parce que pour mes championnats, où, en fait, j'ai une discipline qui est assez physique quand même. Et les autres gens le font moins, du coup, moi, je gagne en efficacité en étant plus physique qu'eux. Donc ça, au début, je l'ai fait vraiment pour ça. Et après, du coup, ça devient pareil, une drogue, ça devient un must-do dans la journée, quoi.
Oh, mais t'as dit une drogue, et puis tu l'as repris, hein.
Pris.
Tu veux pas,
hein. Non, mais oui, c'est une drogue parce que les jours où je trouve pas le temps de le faire, je me sens à la limite du coupable.
Donc, mais c'est coupable face à ta discipline, en fait.
Voilà, c'est ça.
Donc, t'es addict à la discipline.
Un peu.
Alors, c'est quoi le sport? Quel sport?
Boxe, pas mal. Boxe pour le cardio, que j'ai commencé pour le cardio parce que j'aime pas du tout, enfin je trouve ça aucun intérêt. Et du coup la boxe me fait mon cardio, et sinon je fais salle de sport pour le renfort musculaire très ciblé. Du coup les gens à la salle de sport me prennent un peu pour un fou parce que je fais des exercices bizarres.
C'est-à-dire?
Bah j'ai trouvé des exercices qui vont pour mon sport, mais du coup qui sont des exercices pas communs. Je fais des trucs, je vais chercher des petits muscles dans le dos, dans l'épaule, dans l'avant-bras, dont on se sert pas beaucoup, mais dont je me sers dans ma combi.
Et tu les as trouvés tout seul, ces petits muscles?
Ouais, j'ai cherché. Ouais. Non, j'ai cherché pendant, bah en fait j'ai dit bon bah faut que je développe ça. Les week-ends j'ai mal à tel endroit, donc du coup je vais tester des trucs. Et à partir du moment où j'ai moins mal le week-end, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui est bien. Et du coup, j'ai trouvé des exercices très bizarres.
T'es un chercheur. En fait, tu optimises. Ouais, j'ai trouvé.
J'optimise ta mal.
En fait, t'as dit que t'as énormément de choses, mais de choses assez positives, je trouve. Optimisation, discipline, aussi le rush de bien-être, en fait. Mais est-ce que tu te sens libre?
C'est la grande question.
Parce que pour quelqu'un qui est comme ça, accro à la liberté, moi, j'ai l'impression que t'es quand même attaché, toi qui n'aimes pas être attaché. Moi, je connais ça, ce truc-là de culpabilité. Je trouve que ça ronge. Ça peut ronger et surtout ça rend pas libre. Tu te dis si je le fais pas, je suis coupable ou alors je m'en veux et je me juge.
Non, je m'en veux pas. C'est juste que je suis là. T'aurais dû trouver le temps.
Ouais.
Et je Parce que comme tu as dit, j'optimise.
Je m'en veux
choses.
Pas, mais t'aurais dû.
Ouais, t'aurais, non, mais t'aurais. Je me blâme pas. Genre, je suis pas du tout au point de me blâmer. Je dis bon, c'est pas grave. T'avais des bonnes raisons et t'as pas pu et c'est ok.
Mais tu te dis pas juste peut-être qu'il y a des gens où je peux me laisser tranquille.
Si, ça m'arrive parfois. Mais
quand c'était quand la dernière fois?
La dernière fois. Si, ça m'arrive. Si, ça m'est arrivé il y a deux semaines, il y a deux jours où j'avais pas envie. Et j'avais pas envie de rien. Du coup, j'ai juste été piloté.
Quand même.
Ouais, mais c'est pareil, c'est un moment de liberté. Moi, je prends l'avion avec mon instructeur. Je dis, on va se promener. J'ai fait un chemin. On fait tac, 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 tac. Et on est parti se promener. Et au même temps, j'apprends et j'étoffe ma technique pour valider la licence pour cet été. Mais si, il y a des jours où ça m'arrive parfois.
Et c'est lié à quoi les jours où t'as moins envie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit? Ou est-ce que la veille, justement, par exemple, t'aurais fait la fête?
Non, parce que quand je fais beaucoup, comme j'ai pas mal, on parlait de charge mentale tout à l'heure, j'ai un peu trois gros sujets, parce que j'ai eu des problèmes de taf, ça a été un peu compliqué niveau taf à la fin de l'année.
Tu parles de ton boulot de photographe?
De mon vrai travail.
C'est ton vrai travail, ouais.
Je paye les factures. Et du coup, ça a été très compliqué en rentrant des championnats du monde. Donc, en octobre, entre octobre et quasiment là, ça a été assez compliqué parce que des petits soucis avec des clients, enfin pas des clients, pas ceux qui me payent, mais des gens en interne, des chez les clients, ça a été un peu compliqué. Et du coup, j'ai eu beaucoup de doutes sur comment je transforme ça en positif et qu'est-ce que j'en extrais pour faire des trucs intéressants derrière. Et donc du coup j'ai ma charge mentale un peu boulot, du coup je monte la boîte avec une de mes amies, donc j'ai une charge mentale boulot, j'ai de la charge mentale de sport et j'ai la charge mentale de valider mon permis, mon brevet, parce que faut que ça soit fait après, comme ça je suis tranquille.
Encore, c'est pas d'enfant.
Trois charges mentales où faut que j'arrive à placer dans la journée un peu les trois sujets. Et voilà. Et donc du coup t'as des jours où tu
ça fatigue, ouais.
Prioriser l'un, prioriser l'autre, mais à la finale une fois que tout sera lancé, je serai libre justement quand on parle de liberté. Je veux monter la boîte que je monte, c'est un concept de boîte de production pour les boîtes de luxe, un peu ce que je faisais pour des grands groupes français. Mais du coup, à ma sauce. Donc, j'espère mieux. On verra.
Déjà, c'est un luxe quand même de pouvoir faire ce métier-là, d'avoir réussi, d'y arriver facilement. Ça a été
beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, voilà, ouais. Ça n'a pas été un coup de bol.
Non, ça a été beaucoup de travail. Après,
c'est ça que tu voulais faire.
Petit facteur chance. J'avais 15 ans, je me suis pas dit je vais être photographe. J'ai toujours aimé la photo, j'étais ce pote, c'est qu'un appareil photo, on a toujours un pote dans la bande, voilà, ça c'était moi. Et du coup, j'étais ce pote là et
j'étais ce pote.
Ouais. Non mais il existe dans les clichés des
c'est clair,
des
il y a toujours quelqu'un avec son appareil.
Et du coup, moi j'étais ça, à l'époque on n'avait pas les iPhones, on n'avait pas tout ça, donc moi j'étais l'appareil photo, la pellicule quoi. Wow. J'ai un père qui faisait beaucoup de photos.
Donc t'es un collectionneur aussi, t'as des cartons remplis de photos.
J'ai un peu des cartons remplis de photos. Maintenant, avant je gardais tout, maintenant je garde plus tout.
Ouais, c'est dur.
Mon père garde tout, c'est terrible. Ah. C'est terrible. Il garde tout. C'est une montagne de négatifs, de disques durs maintenant avec les cartes, les machins. C'est un truc de fou. Non, moi je trie beaucoup. Je garde.
T'as le temps pour trier, c'est ça le plus dur.
Avant je gardais tout, mais même tout, les fringues, les machins. Maintenant je trie. Je suis devenu très
minimaliste.
Pas à ce point-là, mais il y a plein de trucs que j'ai retirés. Mes placards, c'est bien rangé, j'aime pas quand ça déborde. Dès que ça déborde, je sors tout et je viens. Et je tèche. C'est qu'il y en a trop, ça sert à rien.
T'aimes pas les choses qui s'accumulent et qui pourrissent, ouais.
Non. Je m'habille pour un photographe de mode, c'est la grande blague de mes potes. C'est le photographe de mode le plus régulier du monde. Je m'habille toujours quasiment pareil. J'ai t-shirt blanc, noir, gris, c'est tout. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a rien. C'est pas mon. Ça a été mon truc à une époque. Mon truc, j'ai des belles pièces, le beau sac, le beau portefeuille, le beau machin, la montre,
la belle montre.
Ces trucs-là. Mais je suis plus un hystérique de choses en fait. Je préfère avoir plein d'expériences, plein d'activités, plein de choses. Et en fait, je trouve que les choses te rendent dépendant d'elles. Donc, moi qui cherche à être. Si jamais j'arrive toujours pas, hein. Mais si jamais j'arrivais à condenser ma vie dans deux valises, ça serait extraordinaire.
Ouais. Moi aussi, c'est un fantasme que j'ai, parce que je souffre aussi de pareil que toi, et je trie tout le temps, et je jette beaucoup, et donc c'est du gâchis, donc il faut surtout aussi arrêter d'acheter, quoi. Mais je trouve que la liberté, elle vient vraiment... les gens se sont perdus dans la surconsommation pour se sentir libre d'avoir plein de choses. Et moi, je trouve que ça nous attache, et ça, on revient au bouddhisme, vraiment, qui est la souffrance vient de l'attachement. Ouais. Donc l'attachement aux gens, l'attachement aux objets surtout. Parce que même l'attachement aux gens, hein, d'être attaché, on peut aimer sans être attaché, quoi. Mmh. Et les objets, je trouve que moins on en a, et la vie m'a amené à devoir me libérer de mes objets. C'est pas moi qui ai choisi, et en fait, je dis merci, merci la vie, quoi.
Bah moi, j'ai un peu ça. Après, il y a quand des sujets sur lesquels faut que je me soigne, quoi. Genre mes combinaisons, tout le monde, ils les vendent tous. Moi, j'avoue, je les garde toutes. J'ai un peu, c'est le chose que j'ai le plus, je pense, c'est toutes mes combis. J'en ai.
Oui, mais ça, c'est ouais, sentimental.
Ouais. Ça sert à rien, autant les donner. Maintenant, je les ai mises à dispo dans le club où je saute, parce que comme ça, il y a des jeunes qui peuvent avoir des wingsuits gratos pour commencer la discipline. Donc ça, c'est intéressant.
Est-ce qu'on en change souvent de costume?
Tu changes, ouais, celle de compète, elle dure un an, donc oui.
Bon, pour en revenir à ton métier, tu étais en train de me dire comment tu étais arrivé. Tu étais ce pote-là qui avait toujours un appareil photo. Et donc,
du coup, ça, j'étais pas mauvais à l'école, mais ça m'intéressait pas trop. Et après, je suis parti un peu en live tough et tout. Et j'ai dit, en fait, ça m'intéresse pas. Je me suis pas réveillé pour mon oral de bac de français. Parce que j'avais une teuf la veille. En plus, je suis dyslexique, donc à l'écrit, j'ai réussi à bricoler un truc. Je suis sûr qu'à l'oral, ça se serait bien passé. Mais je me suis pas réveillé. Et là, j'ai fait un espèce de constat en mode, waouh, c'est chaud. J'étais là, c'est pas bien, mais du coup, faut que tu trouves quelque chose, un truc à faire. Et du coup, j'ai arrêté l'école. Moi, j'ai pas mon bac, j'ai rien. J'ai pas de backup, j'ai rien.
Le backup.
Ouais, c'est ça. J'ai rien du tout. Et du coup, j'ai commencé, et ça, en fait, un moment un peu de déprime, de questionnement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois les autres avancer, toi, t'avances pas. Donc tu fais la fête, c'est très bien, t'as plein d'amis, t'as plein de copines, t'es invité partout, c'est super, mais il se passe rien, tu construis rien. Et je faisais encore des photos tout le temps. Et j'avais une amie qui était en agence de mannequin dans une agence qui s'appelle Mademoiselle, c'est il y a longtemps. Et j'avais fait des photos d'elle à l'époque en argentique, et l'agence m'avait acheté les clichés, les bandes. Autant te dire que c'est un bout de temps. Ça, et du coup j'ai dit, mais vas-y, en fait, t'es pas mauvais là-dedans, il y a peut-être un truc à faire, t'aimes bien ça, vas-y. À l'époque, j'étais hyper mondain, j'adorais sortir, faire la teuf, rencontrer plein de gens et tout ça, j'adorais ça. Maintenant,
les paillettes,
moi, m'amusaient beaucoup. Et donc, du coup, je suis parti là-dedans, j'ai commencé à bosser avec un photographe où j'étais deuxième assistant, puis premier assistant. J'ai bossé dans les studios, dans les grands studios à Paris pour apprendre, parce que j'ai dit, ok, maintenant, faut que j'apprenne comment ça marche, comment on comprend et tout. Et du coup, tu vas en studio, j'ai fait 6 mois dans les grands studios au pin-up à l'époque. Et où en fait, tu vois plein de photographes travailler de façon différente et tu dis, ah, ça j'aime bien, ça j'aime moins, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Mais à ce moment-là, toi, tu portes les cafés, les générateurs, les lumières et les torches, quoi. Donc, t'es un peu le holoman sur le côté, mais tu vois tout. C'est intéressant. Et après j'ai commencé à bosser les agences de mannequins. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à travailler avec vente privée, qui était pas très créatif en termes de job, mais par contre ça payait bien. Du coup j'ai eu la chance de commencer.
Des objets, enfin des...
Non, vente privée, je faisais tous les photos des catalogues des débuts de vente privée en fait.
Ah oui, vente privée, pardon.
Et du coup j'ai eu la chance de trouver ça. Et après les contrats, les machins, la vie a fait que ça a avancé jusqu'au Covid. En fait, Covid compliqué, et changement de mentalité dans les gens. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai l'impression que ça pourrait être un nom de film comme Situation amoureuse compliquée.
Covid compliqué.
Ouais, c'est un vrai film. Covid compliqué, ça parlerait à beaucoup de gens.
Un peu, je pense. Et donc non. Et en fait, la mentalité de l'univers dans lequel je travaillais a beaucoup changé à ce moment-là. J'ai eu un peu des trahisons de clients qui m'ont fait des petits pas chassés pendant le Covid, et j'étais là genre, les gars, genre là je c'est très compliqué, personne m'aide, ok, personne m'aide, très bien. J'ai vécu sur mes économies du coup pendant quasiment 2 ans de Covid. Moi je m'étais fait un petit pactole parce que je suis un peu frileux de la retraite, donc j'ai dit vas-y, faut que j'achète un appartement, je vais acheter un truc et tout, et j'ai fumé tout mon apport du coup en 2 ans de quasiment pas travailler, quoi. Donc j'avais mis beaucoup d'argent de côté et j'ai vécu dessus. Je demande pas d'aide, je voulais pas demander d'aide à personne, à l'État, les machins. Moi, tant que je peux me gérer, je me gère.
Et ça, et du coup, sortie de Covid, bah déjà, j'ai fumé mes économies. Et je sais pas, les dynamiques des gens avaient changé, c'était très frileux, c'était très compliqué. Ça, je crois que j'ai fait mon dernier très gros job sorti, enfin en mode campagne et tout. J'ai fait mon dernier très gros job vraiment sorti du Covid, même pas pendant le Covid, parce qu'on faisait un truc de une énorme campagne digitale worldwide sur les maquillages qui tiennent avec les masques. Avec les masques free, machin et tout. Non, c'est un gag. C'est vrai.
Masque free.
Masque free, ouais, c'était quoi ouais. C'était.
C'est le waterproof, c'est le masque ouais, c'est proof.
C'est masque proof.
Masque
proof. Exactement ça, c'était le claim. C'était un des claims d'un des visuels. Et ça, et du coup, à la sortie de ça, j'ai commencé à bosser dans la photo technique, en fait, où j'ai commencé à faire tous les trucs de e-commerce pour les marques de luxe, pour Vuitton, Dior, Cartier, tout ça.
Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que tu décides de faire quelque chose, tu le fais à fond.
Hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc,
exactement.
Dans cette phrase très cliché.
Mais je trouve qu'il y a un vrai lien. Tu disais, c'est deux mondes qui ne se parlent pas. Moi, je trouvais qu'entre les hangars, les vannes, le bitume et les paillettes et tout ça, il y a un lien en fait, entre ce regard de photographe et ta manière de. Et le regard aussi que tu peux porter sur le monde. Il y a vraiment une histoire de toi, comme tu disais, dans la fête, par exemple, quand tu. Consommais pas, tu contemplais aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation et donc toujours du flow parce que en fait tu t'es vraiment dans une connexion avec quelque chose de très grand tout le temps en fait. S'il y a pas ce truc là, j'ai l'impression que tu t'emmerdes royalement et il y a vraiment ce truc en ce que je dis en intro de photographier des trucs figés et de sauter pour sentir ton corps vivant. Il y a un autre truc aussi qui me fait marrer sur ton Instagram, c'est je sais plus, il y a marqué que tu recherches l'instant photographier l'ultime moment.
Ouais.
Et donc en fait, il y a toujours cette fameuse recherche de du truc parfait, de l'instant parfait, du truc sublime, en fait, ce que Spinoza, en philosophie, on appellerait ça la béatitude.
Ouais. Bah oui, après, c'est... Mais justement, j'ai calmé la photo parce que quand il y a des modes d'images et des choses qui plaisent et à un moment et d'autres. Moi, j'adore la photo des années 90, c'était vraiment très, très beau, très propre, très clean, très bien éclairé, très bien fait. Là où après, c'est passé un peu en mode, un peu destroy, c'est le moment, c'est la DA, s'il y a de la lumière qui écrase, c'est pas grave. Les garçons qui sont des filles, les filles qui sont des garçons, j'ai fait, waouh, ça c'est pas mon truc. Après, je respecte, mais c'est pas moi ce que j'ai envie de raconter. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est là où j'ai un peu step back. Mais j'aime bien vivre pour le moment ultime. Et c'est la différence entre la photo et la vidéo. La vidéo, c'est t'explique tout le moment. Tout ce qui se passe, toute une action. Alors, la photo, tu vas chercher le point culminant du moment. C'est vraiment le point maximum de l'intention, de la beauté, de peu importe quoi, de la vague quand tu fais des photos de surf. Quand elle est bien, pas cassée, pas complètement cassée, pas encore cassée du tout. Enfin, tu vas chercher le moment pile poil.
C'est vrai que la vidéo, c'est plus facile, en fait. Hein, t'as tout et... Non,
oui, t'as moins besoin de choisir.
Et ouais.
Alors donc qu'en toi, photo, ça tu vas pas aller peur, chercher le choix. Non.
Parce que c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, dans la vie des addicts, en fait, c'est choisir donc le fameux renoncement.
Ouais.
Quand tu choisis, tu renonces à tout le reste. C'est comme quand tu choisis ce t-shirt-là.
Ouais.
Tout le reste, quand tu tries, par exemple, tu renonces à tout le reste.
Moi, je me dis, je ferai le reste plus tard.
Mais c'est une très bonne phrase, ça. Ça, c'est très bien, parce que moi qui ai vraiment du mal avec le choix.
Je ferai le reste plus tard.
Bah oui, mais vraiment, je comprends. Il y a un truc aussi, donc, on dit que l'adrénaline apaise, et ça, c'est vrai, parce qu'on peut avoir l'impression que ça excite. Et en fait, ça paraît paradoxal, mais c'est exactement l'effet paradoxal qu'ont la cocaïne ou la rétaline sur les TDAH. Donc, est-ce que toi, tu penses que tu as aussi un trouble, quelque part, d'hyperactivité ou de trouble de l'attention? Parce que les psychostimulants, l'adrénaline, la rétaline, vont vraiment calmer ces gens-là. Et en fait, il se passe un truc, c'est qu'il y a une augmentation de la dopamine dans le cortex préfrontal qui améliore ainsi l'attention et qui réduit l'hyperactivité, puisque t'es hyper focus.
Ouais, c'est pour ça que j'essaie de faire du sport le matin. En fait, parce que du coup, ça me fait une décharge de dopamine. Forcément,
des nombres qui de fois qui va t'aider partie, pour la journée,
qui me pose en fait.
Et donc, si l'adrénaline t'apaise, ouais. Je pense que tu fais partie de ceux, puisque ça a donc un effet paradoxal chez toi, parce qu'il y en a chez qui ceux qui sont normaux entre guillemets, les civils, les moldus, tout
les
ça.
Moldus.
Eux, ça peut leur mettre un shoot et puis d'un coup une redescente, tu vois. Alors que toi, ça apaise.
Non, bah ça me pose, je suis calme en
ça
fait.
Ça te pose.
Ça me calme. Je suis un peu. La boxe par exemple m'a beaucoup calmé. Je suis très sanguin. Je protège, je fais attention aux gens, mes potes, mes machins, mes copines, mes amis, ma famille, mon frère, tout le monde. Je suis très comme ça.
Protecteur
un peu. Et la boxe m'a beaucoup calmé. Et le sport maintenant me j'essaye. J'arrive pas tout le temps, mais j'essaye d'aller au sport le matin parce qu'en fait ça me calme un peu pour la journée. Ouais.
Écoute, moi, il faudrait peut-être que j'essaye aussi la boxe parce que la course me fait chier.
Enfin, là, c'est, en ce moment, c'est plus salle de sport, mais c'est le même effet le nombre de fois. Je suis parti de la salle de sport sans casque. J'ai oublié mon casque de moto. J'ai oublié de le récupérer à l'accueil. Ah oui, avant, j'étais bien. Je pars sur la moto, je fais au vent et je fais hop, là, il manque un truc.
Et est-ce que justement cet état-là n'est pas dangereux en moto?
Non.
Non?
Non, mais le moto, c'est la moto, tu focalises, tu tunnelises un peu et après.
C'est l'inconscient aussi, dangereux. Ça aussi. Hein. C'est très. Tu te rends même pas compte à quel point t'es focus.
Tu te rends même pas compte à quel point t'es focus et par moments t'es tellement focus que t'oublies. Nombre de fois où je me suis retrouvé plus sur l'autoroute qu'en ville, mais où je me suis dit mais comment je suis arrivé là en fait.
Et pourtant j'étais
dans mes pensées.
Fait.
Voilà, j'étais dans mes pensées à réfléchir à mille trucs et tout. Et en fait
c'est de l'hypnose
en
fait.
De ça. Ouais. Mais c'est pour moi c'est ce qu'on avait parlé au téléphone de la nuit quand j'arrive pas à dormir où je vais faire des tours de moto du périple et tout machin parce qu'en fait ça me. Et tu réfléchis mieux parce que du coup t'as cette espèce de tunnel, on appelle ça la tunnel vision.
Ouais, exactement.
Tu focus et donc du coup tu vois pas les trucs parasites de machin et t'arrives à trouver des. Moi j'ai trouvé des solutions en bécane à 2h du matin.
Mais tu vois que c'est aussi lié avec la photo, le focus.
Ah, pas mal.
Non mais il y a énormément de liens en vrai. Bah oui. C'est important le focus de savoir exactement sur quoi tu dois porter ton attention.
Ouais, mais ça pour le coup j'ai du mal parfois. Après, c'est ce que j'ai choisi, mais j'ai mille trucs à gérer. Je suis là, genre,
parfois, on s'impose des choses.
Et comment j'arrive. Mais maintenant, j'arrive, c'est avec l'âge, mais j'arrive plus à décomposer les choses. Ou avant, quand je voyais une montagne, je suis là, je vais jamais y arriver. C'est l'Everest, le truc. Et une fois que tu as compris que tu pouvais faire des petits paliers et que
tu fais les problèmes les uns avec les autres.
Les petits pas, c'est ça.
Les petits pas, c'est la.
Pour un mec qui vole, les petits pas, c'est compliqué.
Non, mais même, tu vois, il y a des trucs, les gens qui regardent des montagnes, d'accord, mais moi, c'est pour ça, pour étendre mon linge. Je vais d'abord ouvrir la machine. Une heure après, je reviens, je sors le linge, je le mets dans la bassine. Une heure après, je vais étendre les petites pièces.
Je connais.
Genre, t'étends le linge en 12 fois. Alors, imagine ta vie, quoi. Ah, bah oui, parce que je peux. C'est trop pour moi d'un coup. C'est comme quand je reçois trop de mails en même temps. La personne qui m'envoie le 10e mail, elle est morte.
Ouais.
Elle le sait, hein, tu connais. C'est la personne qui m'envoie ce 10e mail, elle a rien fait, la pauvre. Mais sauf que c'est trop pour moi, c'est trop. Je me sens écrasée, quoi.
Carrément, ok.
Bah ouais. Moi, la montagne, je la regarde pas, elle m'écrase.
Ok.
Tu vois?
Et t'arrives pas à décomposer, justement,
bah,
à te dire, bah, j'y vais.
J'essaye, mais quand
comme
tout arrive en même
temps.
Ouais, mais là, c'est la machine, je connais. Mais quand tout arrive en même temps, bon, on n'est pas là pour parler de moi, même si c'est toujours le cas. ce qui est important aussi, je voulais parler de cet accident. Je voulais savoir qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là où t'étais dans l'incapacité de faire tout ce que tu fais là.
Alors,
aujourd'hui.
Au tout début, pas grand-chose. Parce que j'ai passé 7 jours à l'hôpital le temps de recevoir mon corset. Allongé. J'avais pas le droit de me verticaliser parce que je me suis cassé le dos. Ouais, je me suis cassé le dos, je suis passé vraiment pas loin. Je suis vraiment passé pas loin. Du coup, je me suis cassé le dos et j'ai... il est vraiment 6 jours allongé dans le lit. Donc le 2 août. Hein.
Et donc souffrance physique?
Un peu mal, mais bon, j'étais sous médoc.
Mais morale, en fait,
En vrai, pour le coup, là, tu vois, les réseaux étaient sympas. Parce que du coup, j'avais plein de messages que j'avais posté, une ou deux stories et tout. Il y avait des gens... Là où je sautais, qui avait posté la story où, en mode, vraiment, t'as le bruit de 80 kilos qui s'éclate par terre. Et donc j'avais eu pas mal de messages de soutien vraiment sympas, mais de partout dans le monde. Donc ça, c'était vraiment assez cool, alors que j'ai pas une énorme communauté, je suis même pas 2000 followers,
tu vois. Ça a fait le buzz?
Ça a un peu fait le buzz, ouais. Et les médecins étaient très sympas. Je rigolais avec les médecins, ils m'ont dit, t'as eu chaud. Donc,
t'as senti que t'as frotté la main?
Je suis passé pas loin, ouais. Mais j'étais au début, c'est très marrant parce que j'ai pas perdu connaissance ni rien au moment du crash. Et quand j'étais au sol, par rapport à ce que tu disais, j'étais tellement énervé contre moi-même. J'étais tellement énervé parce que j'avais 12 000 trucs qui arrivaient. Je devais passer une initiation, enfin, devenir initiateur de wingsuit. J'avais un stage pour devenir prof de wingsuit. J'avais les championnats de France. J'avais les deuxièmes championnats de France qui venaient derrière. Donc j'avais un mois d'août rempli, quoi. Et j'étais le premier sentiment, après m'être éclaté par terre, j'avais pas encore la douleur qui est arrivée parce que j'étais encore à chaud, j'étais hystérique contre moi-même. J'étais là, putain, t'es trop con et tout. J'étais énervé contre moi-même. C'est fou comme premier sentiment de tête. Tu sais que tu t'es fait très mal, hein. Parce que c'est les. On parlait tout à l'heure du temps qui ralentit. Quand je fais mon dernier virage, pas bien ce qui m'a amené par terre. Là, tu vois le sol, tu vois ton parachute, t'es là, genre là, je vais m'éclater, c'est sûr. Et ça va à la fois très vite, mais ça va très lentement. J'ai eu le temps de penser, de dire, on pose qu'une seule jambe, on n'en pose pas les deux comme ça. De toute façon, je vais me péter les jambes. Donc autant m'en péter qu'une. Je préfère avoir un plat d'un
t'as
côté
pensé
que
à
d'être.
Tout ça
ouais, j'ai pensé, mais sur une seconde et demie, sur deux secondes. Mais ça va très vite et très lentement quand justement les Ayrton Senna et tout machin parlent de ces moments où t'as le temps qui ralentit et tu penses alors que tout va très vite. C'est assez
comme
vrai.
Comme dans les films.
Voilà, moi je l'ai vraiment vécu
ça. Tu décomposes chaque seconde.
Tac, 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 tac. Et ça, donc non, après, du coup, cet accident, du coup, ouais, une semaine. Après, je suis rentré chez moi, ma pauvre mère qui a dû rentrer de vacances en plein mois d'août, qui était enchantée.
Donc toi, la culpabilité, c'est ton truc. Hein,
hein
la culpabilité. Non, après, tu te dis pas, après, j'ai failli mourir.
Après, je l'ai renvoyé. Je lui ai dit, tu sais quoi, va profiter de tes vacances, je me gère.
Oui, parce que tu te sens coupable.
Du coup, j'ai été chez elle parce que c'est un peu plus grand que chez moi. Plus pratique pour un handicapé. Ça, j'avais ramené les deux Dyson. J'avais un Dyson chez moi, un Dyson chez ma mère. J'ai mis les Dyson, un dans la chambre, un dans le salon, salle à manger. Je me prenais avec mon Dyson comme ça. Wow. Parce que j'étais en béquille et en corset. Donc
en
moi,
canicule.
J'ai eu plâtre et corset.
Et en canicule.
Ouais, voilà, en canicule, ouais. Vraiment, j'étais comme ça devant mes Dyson. Un peu de morphine, du coup, le matin. Mais j'ai pas eu le high. Je pensais avoir le high de la morphine dont les films parlent et tout. Je l'ai pas eu. Juste, j'avais moins mal.
Tant mieux, ouais.
Juste, j'avais plus mal. C'est vraiment, je le prenais le matin quand tu ouvres un œil, tu prends ton truc de morphine juste pour le matin et tout.
Mais pendant ce temps qui se décompose, il n'y a pas je vais mourir ? Jamais. Ça, tu n'y penses pas ?
Non, parce que j'étais là, bon, on va se faire mal. Mais justement, c'est que tu penses au fait de te dire comment je me fais moins mal et comment je me tue pas, quoi. Il y avait un champ, une route, un champ. Je dis, il faut juste pas avoir la route, déjà, pas le béton. Le champ, on était au mois d'août, donc le champ, c'est, la terre, elle est très dure. Pas des
mais
plus d'eau, il n'y a plus rien.
Mais c'est mieux que le bitume, quand
même.
C'est fou. Et ça, tu remercies personne au moment où tu te rends compte que t'es en vie.
Non,
tu te remercies toi, quoi.
Ouais, je me suis un peu sauvé la vie. Ouais. J'ai tenté des trucs. Il y a des trucs qui ont marché, d'autres moins. Mais, tu vois, je me suis même pas pété la jambe en plus.
Et tu l'assimiles à quoi cet accident ? C'est une erreur de.
C'est une erreur de. Comment on appelle ça ? De. Même pas d'appréciation. C'est une petite arrogance.
Ouais,
là,
c'est
sans saut, je suis le meilleur, c'est bon, c'est tranquille, le parachute et tout. C'est comme les gens qui passent le permis moto. Moi, je leur dis, vaut mieux que vous ayez un petit accident dans les 6 premiers mois. Parce qu'en fait, les 6 premiers mois, tu fais attention. Et du coup, t'auras un accident mineur. T'auras un petit truc, une petite glissade, un petit quelque chose. Tu risques de te faire moins mal. Si t'as un accident sur les 6 mois d'après où t'as la phase de confiance, il t'est rien arrivé, t'es là, en fait, la moto, c'est tranquille, machin et tout. Là, tu tapes un vrai accident. Et du coup, moi, c'est la même chose. J'étais à 500 sauts, ça faisait du coup deux ans et demi que j'en faisais, beaucoup. Mmh. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est tranquille, quoi. Et bim.
Est-ce que, après, quand t'as donc pas pu faire tout ce que tu devais faire ce mois-ci et puis les jours d'après?
J'ai beaucoup bossé, du coup.
Bossé quoi?
Bah, je bossais, je préparais mes shoots, j'ai fait des shoots. Du coup, j'avais plus d'assistants. J'arrivais avec mes béquilles et mon corset. Et du coup, au lieu d'avoir zéro ou un assistant, là, j'en avais trois. Même là, j'arrivais pas à rien faire. Ils m'ont dit, j'ai fait un malaise sur mon premier shoot que j'avais fait en corset et en béquille. J'ai fait un malaise. Parce que j'arrivais pas à m'arrêter de bouger, mais j'étais sous mes docks, sous machin.
Il m'a quand même dit qu'il avait pas de trouble de l'hyperactivité. Hein. Il a quand même osé. Non, mais il ose pas mal de choses, je trouve. Hein. Le mec.
Et du coup, après, non, j'avais deux assistants. Donc, non, j'ai un peu bossé pour faire du sport. J'avais pas le droit. Ou très peu. Mais je leur ai dit, j'ai le droit de marcher en béquille. Ils m'ont dit, oui. Du coup, je peux monter les escaliers en béquille. Ils m'ont dit, bah oui. Du coup, mon sport, c'était de ma mère qui habite au sixième étage. Je descendais, je remontais du sixième étage en béquille.
Waouh!
J'avais pas le droit de faire de sport ou entre guillemets, je suis genre des pompes, par exemple. J'ai pas le droit de faire ça. Mm. Parce que tu tords un peu ton dos.
Tu travaillais tes bras quand même.
Donc, je faisais ce que je pouvais. Et le seul truc qu'on m'avait dit que j'avais le droit de faire, c'était de marcher en béquille. Je dis, bon, bah, si je peux marcher en béquille, je descends, je remonte l'escalier, je suis en béquille, quoi, j'ai le droit.
Et donc, dépression, non. C'est pas du genre à aller mal, toi?
Ça m'arrivait là. En octobre.
Ah bon ?
Vraiment, ouais, j'étais pas bien.
Pourquoi ?
Boulot compliqué, rupture amoureuse très dure. Donc ouais, donc non, j'étais pas bien du tout. C'est assez rare que je me laisse aller, parce que je me dis, il y a toujours un truc qui va aller. Comme j'ai une vie pluridisciplinaire où j'ai plein de choses, s'il y en a un qui va mal, c'est pas grave, je compense avec
le
reste.
Oui, t'es optimiste, tu te concentres sur celui qui marche. Voilà. Mais l'amour, ça doit être compliqué pour toi quand même, parce que vu que tu contrôles quand même bien tout... C'est quand même déjà de contrôler quelqu'un d'autre, c'est pas possible, mais même l'amour en soi, tu peux pas contrôler.
Non, je suis assez en.
En freestyle
assez... Non. Non, moi, j'ai eu des vraies relations longues. Je suis pas dans l'hyperconsommation, ça, c'est pas mon truc. mais je suis très entier dans ce que je fais, donc dans mes relations, ce qui est compliqué aujourd'hui.
C'est-à-dire, tu peux être trop présent, tu veux dire?
Bah, la fille, le chagrin d'amour très soudain de cet été, enfin d'octobre, septembre, j'ai eu une relation très compliquée avant, qui se termine, tout se termine, je reçois les papiers du Dépax, de machin et tout, en juillet dernier. Je me dis, putain, ça y est, je suis enfin libre de toute cette merde de un an et demi de galère. Je dis, là, je suis tranquille, j'ai plus rien, l'huissier, le machin, tout le monde a validé, si on est tranquille. Je dis à tout le monde, je veux plus personne, les gars. Je veux être tranquille, j'ai un business à monter, j'ai machin, je veux rien. Je fais mes trucs, on verra plus tard. Moi, je suis un garçon, donc, entre guillemets, j'ai le temps. Enfin, des enfants, j'ai des enfants, mais j'ai le temps. Je dis, je veux personne. Et j'ai une de mes amies qui me dit, j'ai une fille qu'il faut que je te présente, machin et tout. Je dis, non, je veux pas la rencontrer. Je veux rien, je veux pas rencontrer. Elle est très jolie, elle est très sympa, elle a l'air très sympa, elle est sûrement très brillante, très tout ce que tu veux. Je veux pas rencontrer de personne. Vraiment, je fuis le truc. Et ça, et la fille, elle a dû prendre mon téléphone pour ajouter sa pote sur Instagram. Je sais pas comment ça s'est fait. Tout étant que je pars en mes entraînements avant mes championnats de France de l'année dernière.
Là où j'ai gagné. Bah ouais, c'est important qu'on le sache quand même.
Mais du coup, j'ai toute la hype qui arrive à ce moment-là. C'est pour ça que tout s'est fait à ce moment-là. Je reçois les trucs, je suis libéré de mon ex. Dépax, machin et tout, huissier, je suis tranquille. Du coup, je gagne les championnats de France. Et en même temps, j'ai cette fille qui vient commencer à me parler et qui a un ton que j'aime bien. Très incisive, on se voit quand on rentre à Paris. Pas est-ce que tu veux prendre un verre quand on rentre à Paris, c'est on se voit, on machin, un truc, c'est cool. Inquiète pour moi, fais attention à tes sauts, t'es un fou, je testais des nouveaux trucs que je développe avec une école d'aéronautique dans le sud. Elle me dit, comment ça, tu testes des trucs que jamais personne n'a essayé? Elle dit, tu testes rien, on doit se voir quand tu rentres et tout. Bon. S'ensuit une spirale amoureuse. Moi, je rentre, du coup, je suis en pleine hype, je suis tranquille de l'ex. J'ai une fille très jolie avec qui je papote et c'est très sympa. Et je suis champion de France. Moi, je rentre à Paris, je suis là, waouh. C'est le freestyle, c'est la folie. Je l'ai demandé en mariage au bout de 2 semaines.
Ah oui, non, c'est vrai. Oui. Pourquoi pas?
Parce que vraiment, j'y croyais. Tout était extraordinaire, 2 semaines de dingue. Et ça.
Tu lui as fait peur?
Bah, c'est ce qu'elle voulait. Celle qui rigolait de ça, qui en parlait, qui, quand on s'est rencontrés, a dit, je veux marier, je veux machin, je veux truc et tout. Et j'ai dit, ok, c'est... Quand j'avais rencontré ce que je pensais être, en tout cas, dans ce qu'elle vendait, ce qu'elle n'était pas, enfin, ni ce qu'elle n'était pas, ni elle n'était pas prête pour ça, mais ce qu'elle vendait était exactement cette personne que tu t'imagines quand t'as 15 ans ou plus jeune et que tu dis ma femme elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez fait mon mec, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai dit elle sera comme ça. Physiquement, intellectuellement, elle était hyper intéressante, elle est passionnée par ce qu'elle fait et tout. Je dis ok, c'est trop bien. Tout marche. On est bien.
Sur le papier, c'est bien.
Sur le papier, bah, on va dire que c'était bien vendu. Et en septembre, parce que je lui fais une petite réflexion sur un comportement d'un mec et tout machin, d'un de ses potes, je lui dis juste...
Tu veux dire parce que t'es jaloux?
Gère ton truc. Je suis pas jaloux, mais je peux pas être jaloux. Je sais que les filles avec qui j'ai été, dont elle est très jolie, c'est sûr qu'elle va se faire draguer et c'est ok, tu vois. Après, c'est comment toi t'interagis avec la personne qui te drague, c'est toi qui gères, c'est ton truc. Par contre, quelqu'un qui sait ce qui se passe, qui connaît dynamique, qui sait qu'elle va se marier, qui me connaît, machin et tout, et qui la drague, lui, il se fout de ma gueule. C'est un manque de respect. C'est ça, par contre, non. Ça, par contre, non. Et du coup, dans mon apaisement général actuel, j'ai la voir, je lui dis, écoute, gère ton truc. Gère ton truc, et bah, visiblement, gérer son truc, c'était le mec à qui elle a dit oui en fiançailles, donc gérer son truc.
Waouh.
Je pense qu'il y a eu 2-3 autres facteurs. La mère, un peu... qui n'était pas spécialement chaude pour le projet, religion, machin et tout. Donc voilà, donc là, à la suite de ça, descente aux enfers, travail compliqué, relation, enfin, t'es là, tout, j'ai pas compris, donc j'avais pas une vraie fin, une vraie raison. Donc tout ça, et j'étais là, genre, waouh, là, tu prends tout. Tu sais, quand t'as vraiment tout. Ça, après des guerres de thunes qui sont accumulées avec des problèmes, enfin, vraiment, t'as tout qui s'acharne contre toi, t'es là, et là, t'es. Ce qu'on disait, c'est. Comme j'ai plein d'aspects, je me dis, je me rattrape toujours sur des branches, ouais, à côté. Là, vraiment, il y a toutes les branches qui ont cassé. Et ça, ouais, ça m'a pris 3 mois pour aller mieux, 3-4 mois.
T'as fait quoi pour aller mieux?
J'ai fait quoi pour aller mieux? Je suis allé à la campagne déjà. Je me suis sorti de tout. J'ai coupé tout, les contacts, avec beaucoup de gens. Tous les gens qui étaient plus essentiels, entre guillemets, je les ai tout sortis.
Recentrage.
J'ai dit les 4 vérités à tout le monde.
C'est dur.
Non, c'est quand t'es... Ouais, mais je suis assez cash. Donc, en fait, moi, déjà, je suis pas le pote qui... Mais tu me demandes est-ce que j'ai grossi et que t'as grossi, je te dirais oui. Je vais pas te mentir, c'est pas méchant.
Bienvenue au club.
Mais je te dis les choses, quoi.
Bienvenue au club des gens qui n'ont pas de filtre.
Même les gens que j'essaie de cajoler un peu, là, j'ai pris tout le monde et j'ai dit les quatre vérités à tout le monde. Donc, il y en a qui étaient très contents d'avoir leurs quatre vérités, d'autres qui étaient beaucoup moins contents.
Ils en voulaient qu'une.
Et, hein?
Il y en a qui voulaient les quatre, il y en a qui en voulaient pas.
Ils en voulaient aucune, c'est plus simple de se cacher derrière tout.
Donc, tu t'es libéré en...
De tout.
Ouais. Et la nature.
Hein?
Et la nature, puisque la campagne, quand même.
La nature,
quand même,
la campagne, la famille. Mon frère était, mon frère, ma mère, tout nickel.
L'essentiel, en fait. Voilà.
Voilà. Je me suis un peu recentré sur mes amis essentiels, sur ma famille, mes machins, mes trucs et tout. Et ça m'a aidé. Et j'ai fait ce qu'on disait de diviser la montagne. Je me suis dit, OK, bon, là, il y a toute la montagne qui t'est tombée dessus. Mm-hmm. Comment je prends étape par étape pour régler les problèmes après les autres? Qu'est-ce qui est le plus important en premier? Qu'est-ce qui est après? Et après, après. Donc, du coup, tu divises et tu règles ton problème. Tes problèmes.
Donc là, ça va.
Ça va mieux.
Et donc, pour finir cet épisode, parce qu'on a dépassé l'heure largement,
on a dépassé l'heure. Oula.
Mais comment tu vois en fait la suite? Est-ce qu'il y a une escalade quelque part qui est obligatoire comme dans la consommation de drogue? En fait, c'est soit on arrête, soit on va plus loin. Est-ce que tu sais déjà que ça va plus te suffire à un moment donné, qu'il va te savoir... Je parle en termes d'adrénaline.
L'adrénaline. Bah, peut-être. En fait, je me ferme pas la porte. Justement, c'est le truc du base jump.
C'est quoi au-dessus, alors?
Base jump.
Base jump. Donc ça, c'est sauter d'un endroit...
Ça, c'est sauter des montagnes. Quand tu sautes des montagnes, des trucs comme ça.
Ou d'un immeuble.
Ou d'un immeuble. L'immeuble m'excite pas du tout.
Ouais.
Mais par contre, la montagne, ça m'excite pas mal. Ouais. La grande rando avec tes potes, t'arrives en haut et tu refais la rando que t'as fait en 4 heures, tu l'as fait en 1 minute 20, en volant à côté de la montagne.
Ça, tu sautes en quoi, en fait, là?
En wingsuit, pareil.
Ah, pareil.
C'est juste le parachute qui est un peu différent. Parce que c'est pas le même matériel qui est pas fait pour faire la même chose. Mais ça, je sais pas. Je pense que j'irai un moment. Est-ce que j'irai aussi fort que le parachute? J'aimerais dire que non, mais je me connais.
Ouais.
Et c'est justement, je me freine parce que je me connais, en fait. Je vais vouloir être bon, pour être bon, faut en faire. Mais du coup, c'est loin, j'ai pas le temps.
La discipline.
Voilà. Et du coup, est-ce que ça me suffira à vie? Je sais pas. J'ai pas
tu
la réponse.
Tu crois qu'on peut être heureux, en fait, sans pousser les choses au maximum?
Au max. C'est ce qu'on essaie de me dire de faire. C'est un médecin que je vois en ce moment qui me dit, tu crois trop que ta vie a besoin d'être extraordinaire pour te sentir en vie. Donc, on verra.
Bah, écoute, merci beaucoup, Adrien.
Merci pour l'invitation.
De Villette, avec deux L et deux T. Vous pouvez aller voir son Instagram et vous verrez des mannequins, mais aussi des GoPros et des sauts incroyablissimes. Et il y aurait 1000 sujets abordés avec toi, parce que oui, Adrien est un addict.
Ouais. Salut. Du coup, je t'attends pour sauter.
Mais complètement, ne m'attends pas, je suis là.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.